Marc Porter, président des Républicains Overseas France. Au milieu, l'animateur Vincent Michelot, qui est particulièrement compétent puisque c'est un politologue, un américaniste, qui a sorti donc des articles nombreux sur la politique, dont un très récent dans Le Monde, d'ailleurs à propos de Hillary Clinton, et qui a sorti également une biographie de Kennedy chez Gallimard. Et tout à fait à droite, pour vous, ou pour moi plutôt, Constance Borg, que j'avais contactée il y a déjà 4 ans pour le débat Obama. Et donc, nous nous connaissons de longue date, si bien que je suis très heureuse de l'accueillir ce soir, ainsi que Marc Porter. Et par contre, Vincent Michelot est déjà venu à plusieurs reprises à l'Institut franco-américain et reviendra sûrement. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Le débat est en français et éventuellement, s'il y a besoin de précision en anglais, ça se fera aussi.
Bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il marche.
Ah ben, tout marche.
Est-ce qu'il marche ?
Non. Ah, bon.
Là, je pense que ça va mieux.
Ah, oui.
Bonsoir. On est donc convenu, à la fois avec Lilian Kerjean et puis Marc Porter et Connie Borg, de quelques règles. D'abord, ils en sont tous les deux absolument désolés, mais ni l'un ni l'autre ne sera le président ou la présidente des États-Unis le 20 janvier 2017, donc ils n'ont pas le même rôle à jouer. Je crois que c'est surtout intéressant ce soir de vous donner accès à deux représentants qui sont des praticiens du politique américain, qui vont pouvoir vous parler du programme et de la personnalité de chacun des deux candidats, ensuite de dialoguer d'une manière courtoise et civile, et ça aussi on s'y est engagé. On ne parlera pas trop ou pas du tout de choses qui ont totalement dénaturé le politique américain dans ces dernières semaines. Vous le savez, et aujourd'hui on voit fleurir dans la presse américaine des articles qui disent vivement qu'on vote et que ça s'arrête, parce qu'il y a dans le débat politique américain une certaine dégradation, ou même une dégradation certaine qui est assez inquiétante. Mais on souhaiterait vraiment que ce débat à la fois puisse vous informer de ce qu'on sont les grandes thématiques américaines, mais aussi, et j'en parlais il y a quelques minutes avec un représentant de la presse, vous le savez, on élit le président des États-Unis le 8 novembre, mais on élit en quelque sorte un leader mondial, si ce n'est le président du monde. Et donc, je souhaite véritablement garder assez de temps dans ce débat pour qu'on puisse parler de politique étrangère, parce que sur les grandes questions des traités commerciaux, sur les grandes questions de sécurité et de défense, sur l'OTAN, une présidence Trump serait quelque chose de complètement différent et nous mettrait dans un monde complètement différent de celui d'une présidence Clinton. Donc, on le réserve pour la fin, pour la bonne bouche, si j'ose dire. Mais en même temps, il est certain que nous parlerons de ces questions. Là aussi, nous sommes convenus des règles. On divisera ce débat en quatre grands segments. Dans un premier temps, je demanderai à chacun des deux représentants, des deux candidats, de nous dire ce qui rend leur candidat particulièrement apte à l'exercice de la fonction présidentielle, de cette fonction extraordinairement importante et puissante qu'est celle de président des États-Unis. Dans un deuxième temps, on parlera des questions économiques et sociales, et en particulier des questions d'emploi, de retour de l'emploi manufacturier sur le territoire américain, d'emplois d'avenir, et puis aussi, évidemment, de fiscalité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Dans un troisième temps, on abordera les questions qui tiennent plus aux grands programmes sociaux et au développement de ce qu'on appelle l'État-providence, et savoir, en quelque sorte, la problématique pourrait être, est-ce que l'État-providence est compatible avec l'exercice des libertés individuelles. Et on terminera donc sur la question de la politique étrangère, et j'aimerais que chacun puisse conclure sur la façon dont Donald Trump, Hillary Clinton, voient l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe, puisque nous sommes ici en Europe. Voilà. Donc, on n'a pas fait de tirage au sort, donc il me revient cette obligation de poser une première question à l'un d'entre vous. Mais si...
Non, tu veux tirer au sort.
Oh, on peut. Constance, pouvez-vous nous dire comment et pourquoi Hillary Clinton serait particulièrement qualifiée pour l'exercice de la présidence, et quelles sont les qualités premières de Hillary Clinton, à la fois dans son expérience politique et dans sa personnalité.
Merci, Vincent. Et bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être revenue ici. Et je voulais vous dire, ne vous en faites pas, parce que Mark et moi, nous sommes des vrais amis dans la vie. Alors, quoi qu'on dise ce soir, ça ira très bien après. ne le prenez pas trop au sérieux. Enfin, les questions que nous avons à discuter ce soir sont à prendre très au sérieux, je pense. Et je cherche, vous savez, quelqu'un de mon âge, quelqu'un qui était féministe depuis les années 60. J'ai un préjugé terrible pour le candidat Hillary Clinton, parce que elle a modelé un peu ma vie. Elle m'a fait penser que une femme peut réussir. Elle était l'exemple même de ce que les femmes voulaient atteindre dans les années 60. Et je suis quand même après tout une personne des années 60. Et je l'ai vue depuis le début. On était absolument fascinés par son arrivée. On était très intéressés de voir cette femme, le gouverneur de Arkansas, avait une telle puissance, surtout dans le sud où les femmes ne sont pas forcément au premier plateau. Et puis, toute son histoire nous a toujours intéressés. Et je dois dire honnêtement, si je le vois se présenter à la présidence aujourd'hui, c'est quelque chose de profond en moi, émotionnel, parce qu'on l'a vu pendant 30 ans dans des situations formidables, difficiles, glorieuses, honteuses. Elle a fait face à énormément de choses et je trouve qu'elle est sortie a winner, une gagnante. Et aujourd'hui, elle est arrivée à un stade extraordinaire pour une femme, et pour une femme américaine surtout. On n'a jamais eu une femme aussi haut placée dans le gouvernement américain que Hillary Clinton, secrétaire d'État, sénateur, et bien élue encore mieux la deuxième fois que la première fois. Donc, elle a eu que, pour moi, des succès absolument extravagante et très difficile pour une femme en Amérique. Je pense qu'elle a eu énormément de mal. Il y avait énormément de forces qui travaillaient contre elle. Mais elle est toujours sortie innocente, parce qu'après tout, elle n'a pas tué son partenaire dans son cabinet de droit. Après tout, elle est restée à côté de Bill Clinton malgré ses... ses aventures. Elle était très critiquée par les féministes. Je me souviens, j'étais même parmi les féministes qui disaient, oh, franchement, elle devrait le quitter. Mais après tout, elle voyait quelque chose de plus grand dans sa vie. elle voyait quelque chose d'extraordinaire de Bill Clinton, qui était quand même un homme extraordinaire. Donc, alors là, je sais que je parle un peu des choses personnelles et qui font peut-être petite histoire, mais toute la photographie de Hillary Clinton dans les dernières 30 ans, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, je crois à ses politiques. Elle est une femme de gauche, de centre-gauche. Il n'y a pas vraiment une grande gauche aux États-Unis. Je pense qu'elle était contente de voir Bernie Sanders dans la primaire, parce que Bernie Sanders l'a forcé un peu de retourner à ses sources, parce que Hillary a commencé un peu trop à gauche pour être femme d'une présidente en Amérique. Elle était obligée de se calmer un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses débuts. Elle a fréquenté Wall Street à un moment où c'était la seule façon de gagner des élections. Maintenant, elle se retire un petit peu. On peut dire que ce sont des contradictions, mais ce sont des phases d'une vie. Ce sont des phases d'une vie et les phases de l'Amérique où elle a essayé de conformer à toutes les règles nécessaires de réussir et d'arriver où elle est aujourd'hui. Ce ne sont pas des excuses que je donne, mais je pense qu'elle a toujours été une femme de son temps, de son moment, et elle a bien, bien joué. Et aujourd'hui, je l'admire beaucoup et je suis absolument ravie de voir, d'abord, pas parce que je suis une féministe et parce que c'est une femme, mais je suis quand même ravie de voir une femme qui se présente pour le Parti démocrate, et je suis ravie que ça soit elle.
Je vais me permettre une question et puis tout de suite donner la parole à Marc. Comment expliquez-vous, Constance, alors cette difficulté de Hillary Clinton à convaincre des générations, y compris de femmes, plus jeunes? On regarde les sondages, et les sondages aujourd'hui sont particulièrement précis, particulièrement détaillés, sur les différents segments de l'électorat, et on voit que parmi les femmes de 18 jusqu'à 35 ans, Hillary Clinton n'est pas particulièrement enthousiasmante et a beaucoup de difficultés à mobiliser. Comment l'expliquez-vous?
Je dois dire honnêtement, moi je ne parle qu'avec des femmes qui sont très pour Hillary, les jeunes, les étudiantes à l'American University of Paris. Il y en a plein qui aiment Hillary. Ce n'est pas des femmes qui n'aiment pas Hillary qui viennent me voir. Alors, quand je vois les sondages, je ne sais pas qui sont ces femmes.
Je peux toutes répondre.
Les jeunes femmes. Mais Marc saura peut-être. Je peux vous donner des théories que j'ai au fond de moi, pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Elles présentent une menace pour certaines. Mais je ne veux pas aller là, parce que je ne sais pas quelle est la raison. Franchement, je ne sais pas. Je ne connais absolument personne qui n'aime pas Hillary Clinton autant que moi.
Tu me connais, moi.
Alors, laissez Marc vous dire pourquoi.
Marc, d'abord, dites-nous pourquoi Donald Trump ferait un excellent président des États-Unis. Et puis, expliquez à un public français qui a une certaine pérennité dans ces hommes politiques et ces femmes politiques. Je fais partie d'une génération en France qui avait à peine 5 ans quand Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture et dont Jacques Chirac a traversé toute la carrière pendant 40 ans. Et on sait aujourd'hui qui sera candidat à la présidence de la République en 2022, en 2027 et probablement en 2032. Aux États-Unis, on voit apparaître cette météorite sur le paysage politique, et on se dit, mais comment est-ce qu'un homme qui n'a jamais exercé de fonction élective peut prétendre à diriger la première puissance mondiale?
D'accord. Premièrement, je suis vraiment... Alors, ça ne marche pas, c'est ça?
I turn it off.
Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être à Rennes. Je viens ici très très souvent, alors je vois plusieurs de mes amis ici. Alors, merci d'être venu. C'est très intéressant, cette élection. Mais on habite dans une démocratie. Ça, c'est très important. C'est très important à se souvenir chaque fois que les passions augmentent. Comme Connie a dit, on est des très bons amis depuis très, très longtemps. Alors, on a fait des débats chaque 4 ans. Cette année, les passions sont très, très importantes parce qu'en fait, il n'y a pas un président qui cherche d'être élu pour un troisième mandat, parce que ce n'est pas possible un troisième mandat. Mais les questions que Vincent a posées, c'est très intéressant parce que c'est vrai que M. Trump, il n'a pas l'habitude d'être homme de politique. Il n'a pas l'habitude de parler avec un langue de bois. Il parle sans filtre. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'était pas très, très apprécié chez certains, et c'est très apprécié sur les autres, chez les autres. Alors, c'est quelque chose qui différenciait M. Trump de Mme Clinton. M. Trump adore son pays. Il a un amour de son pays et le peuple des États-Unis. Et de temps en temps, cet amour devient une passion sans filtre. Et c'est vrai qu'il est comme les États-Unis pour le bien et pour le pire. C'est très difficile de défendre certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais je sais qu'il peut être un très, très bon président des États-Unis. Parce que cet amour de son pays, c'est la première chose dans sa vie. Ses enfants, c'est génial. Ils sont vraiment des gens de bien. C'est très intéressant aussi de voir que la ville de New York est aussi une métaphore pour M. Trump. La ville de New York, c'est une ville élégante, belle, vulgaire, sale. C'est vraiment le centre des États-Unis dans le sens que sa composition, c'est beaucoup de nationalités, beaucoup de langues, beaucoup de gens. New York, M. Trump adore cette ville de New York. C'est quoi les qualifications d'être président? C'était bien précisé dans la Constitution. Bien sûr, la nationalité, on doit être né aux États-Unis, on doit avoir un certain âge, mais la chose plus importante, c'est vraiment un respect et l'amour de son pays. Et je crois que ça, c'est le fond de M. Trump. C'est vrai que il a une façade qui n'était pas vraiment bien de temps en temps, mais au fond, il est quelqu'un de bien et sait comment négocier et respect. Il a un respect pour tout le monde, même s'il ne montre pas ça toujours. Le problème aussi, c'est cette idée qu'il était un peu vulgaire, qu'il ne sait pas comment gérer un pays, il n'était pas quelqu'un qui est stable pour les armes nucléaires et tout ça. Ça, c'est vraiment les choses inacceptables. Ça, c'est que les attaques partisanes. Il a fait beaucoup de projets qui sont vraiment très chers, très difficiles, très, très incroyables à la fin, autour du monde. Il sait comment parler avec les présidents des autres pays. Il a déjà négocié beaucoup avec les présidents. Il sait comment gérer les gros, gros projets. Alors, si ce n'est pas la seule chose on peut dire sur lui, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut dire simplement que M. Obama aussi avait la même question posée à lui. Il est 8 ans. Beaucoup de démocrates étaient très en colère qu'Obama est devenu président parce qu'ils ont cru qu'il ne respecte pas tout le peuple des États-Unis. Il était vraiment ciblé vers ce blablabla. Bla. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça aussi, même si la presse française n'était pas vraiment au courant de ça. Mais on va dire simplement qu'aussi aux États-Unis, on a des institutions, le Court suprême, le Congrès, les États. Alors ça, c'est très important aussi qu'un président n'était pas un dictateur. Le président n'était pas quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors M. Trump, il peut être un très, très bon président grâce aux institutions américaines qu'il adore. Et il adore son pays et le peuple américain.
Alors, simplement, je me suis permis de poser la question à Constance de savoir comment Hillary Clinton pouvait étendre son emprise sur des plus jeunes générations de femmes. À vous entendre, Mark, on se remémore cette citation des années 30. What's good for General Motors is good for the United States. Il aurait été un grand chef d'entreprise et il serait naturellement un grand leader politique. Est-ce que, en 2016, on peut dire que gérer une très grande entreprise, une multinationale, c'est la même chose que gérer un pays? Est-ce que, par exemple, la question nucléaire, à laquelle vous avez directement fait allusion, est une question qu'on peut régler selon les méthodes de la négociation commerciale traditionnelle?
Mais comme j'ai dit déjà, que les mêmes questions ont été posées à Obama, qui n'était pas... Il était dans le Sénat pour le premier mandat. Il n'a pas beaucoup d'expérience non plus. Alors, en fait, ça, c'était sa force. Il a expliqué qu'il doit être président parce qu'il était quelqu'un qui n'était pas impliqué dans les corruptions de Washington. Il n'était pas quelqu'un qui était vraiment contrôlé par le pouvoir à Washington. Monsieur Trump dit la même chose. Mais en plus, Monsieur Trump, il a beaucoup de gens très, très compétents, très, très intelligents autour de lui, malgré ce que la presse française dise de temps en temps. En fait, il a une grande compétence de choisir les bonnes personnes, le parfait personne pour chaque projet. Si vous avez vu son émission, parce qu'il est aussi une star de télé-réalité, ça, c'est pas une qualification d'être président, mais c'est une façon de comprendre le peuple américain, tous les peuples. Il a travaillé avec ces jeunes qui sont venus à New York, qui sont venus à Los Angeles. Il sait comment choisir les gens par talent. Ils sont fous de la couleur de la peau, ils sont fous de la langue, ils sont fous de les petites choses comme ça. Il est très intéressé par le talent des gens. Il sait comment choisir ça. Il a beaucoup d'expérience. Si vous n'avez pas vu son émission, regardez-le, parce qu'en fait, c'est très, très intéressant de savoir sa méthode de choisir les personnes, d'avoir une logique pour créer les grandes entreprises, pour créer les grands projets. Et en fait, ça, c'est un talent qu'il a, qu'il sait comment choisir dans les autres.
Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie du débat sur quels sont les projets de société et les projets économiques de ces deux candidats. Je vais inverser l'ordre, donc on va continuer avec vous, Mark, et puis pour pouvoir ensuite alterner avec Constance. Il y a deux grandes dominantes dans le discours économique de Donald Trump. D'abord, c'est l'idée de rapatrier des emplois industriels vers les États-Unis qui auraient été perdus à cause de la globalisation, des délocalisations. Et on entend Donald Trump dire « Bring our jobs back ». Et c'est vraiment l'axe principal de son programme en matière économique qui explique l'essentiel de ses mesures. On est tous dans un monde globalisé. Ce monde globalisé, on le ressent autant à Florange qu'à Pittsburgh. Et pas plus à Florange qu'à Pittsburgh, on est totalement convaincu par l'idée que ces emplois ont tout simplement fui ailleurs et qu'il suffit de la volonté politique pour les faire revenir d'un claquement de doigts. Alors expliquez-nous dans quelle mesure, justement, ces emplois industriels peuvent revenir sur le territoire des États-Unis. Et puis aussi, quelles sont les perspectives en matière de développement, d'invention de nouveaux emplois?
D'accord, c'est une question très intéressante. Je suis un professeur dans les grandes écoles, alors je donne les cours « Comment délocaliser les entreprises ?» Alors, alors c'est un petit paradoxe maintenant que je vais expliquer pourquoi on doit relocaliser les entreprises qu'on a délocalisées avant. Alors, merci pour la question. Mais en fait, on est dans une époque où la fluidité, où la rapidité de change sont très, très, très vite qu'on n'a jamais vu dans nos vies. Alors, tous les cours qu'on a donnés avant de délocaliser, ça c'est une bonne chose pour l'entreprise. Ça c'est bon pour tout le monde parce que ça aide la Chine, ça aide la Russie, le Brésil, l'Afrique et tout ça. Alors, ça peut aider les gens. Et en fait, la globalisation, la mondialisation a vraiment aidé beaucoup de gens. Mais il y a des limites. Et c'est vraiment étonnant que je dis ça parce qu'il y a 10 ans, par exemple, je n'ai pas vu les limites. Et maintenant, je suis d'accord avec les Français. Il y a des limites. Cette idée que la mondialisation ne peut pas continuer. Sinon, ça termine où? On va vraiment changer tout. Alors, comme j'ai dit avant, M. Trump adore son pays. Il a vu beaucoup de souffrances à cause de ces délocalisations, comme vous avez dit, à Pittsburgh, mais aussi à Los Angeles, aussi à Silicon Valley, aussi à New York. L'idée que les entreprises fuient très, très vite, et aux États-Unis, beaucoup plus vite qu'ici, alors ça déstabilise les familles, les enfants, la communauté, la ville, et maintenant le pays. Même un grand pays comme les États-Unis. Et on ne voit pas les États-Unis comme une hégémonie, un grand pays. On voit notre pays comme notre pays. C'est normal. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas quand les Français sont bien entendus. Mais pour nous, maintenant, c'est la Chine qui vient. L'Inde, les autres pays. On a vu que les choses changent très, très vite. Alors, M. Trump a dit simplement... Peut-être on doit faire une pause. On doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant de continuer avec les politiques qui ont détruit les vies des familles, les vies des villes aux États-Unis, comme le Detroit. Le Detroit, c'était une grande ville, le siège social de GM, General Motors, comme Vincent a dit. Et maintenant, c'est une ville vide, détruite. C'est la tristesse, c'est vraiment... Comment ça peut arriver aux États-Unis? La ville de Nouvelle-Orléans, une orage et la ville est presque complètement détruite.
Mais là, Marc, vous prêchez des convaincus. Vous prêchez des convaincus, pourquoi? Parce que nous aussi, on sait ce que c'est que les effets, ce que sont les effets de la délocalisation. Et ma question, si vous voulez bien y répondre, c'est comment? How? Les effets, on les connaît. On a peu de temps. Dites-nous, quelle est la recette? Okay. How do you bring those jobs back?
D'accord, j'ai bien compris. Excusez-moi pour la petite déviation là-bas, mais pour les Américains, ça c'est nouveau. Peut-être que ce n'est pas nouveau pour vous, mais c'est la première fois qu'on a pensé comme ça. Alors ça, c'est une vraie révolution. Et ce n'est pas que M. Trump qui a dit ça, c'est aussi Bernie Sanders. Alors, on cherche les solutions maintenant. Alors, M. Trump dit simplement qu'on doit faire une pause, que les traités qu'on a signés avant ont marché il y a 20 ans, 30 ans, mais ils ne marchent plus. Alors, pour renégocier les traités, ça peut être quelque chose qu'on doit considérer. Et ça, c'est complètement nouveau pour nous. Alors, c'est vraiment une leçon où les pouvoirs à Wall Street... À Los Angeles, il ne veut pas changer parce qu'il bénéficie énormément des changements. Il peut fuir Google, il peut aller en Irlande, Luxembourg, Hong Kong, où il veut. C'est pas une entreprise américaine non plus. Facebook, Mr. Zuckerberg, je ne sais pas s'il veut habiter aux États-Unis ou n'importe où. Alors, ça, c'est les changements que les Américains n'ont pas bien compris, ils ont bien senti. Et ça, c'est la colère qui pousse. Et je ne veux pas attaquer Mme Clinton, mais ça explique beaucoup de choses. Bernie Sanders, il a des idées sur un certain côté, M. Trump, il a des autres idées. Alors, il y a beaucoup d'idées qui poussent. Alors, cette idée de renégocier les traités pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Donc, on va renégocier les traités. Alors, Constance, Hillary Clinton est la candidate de la continuité. On a aujourd'hui un taux de chômage aux États-Unis qui est de 4,9% de la population active. L'économie américaine crée des emplois au rythme de 150 à 190 000 par mois. Beaucoup d'experts sont partagés sur la nature même et la vigueur de cette reprise économique. Comment est-ce que vous caractériseriez la différence entre la façon dont Barack Obama a géré l'emploi aux États-Unis après la crise des subprimes, et puis la façon dont Hillary Clinton amplifierait ou prendrait des directions nouvelles, notamment dans la direction de la création d'emplois.
Oui. Pardonnez-moi, j'étais obligée de regarder un peu dans mes papiers, parce que dès qu'on parle de fiscalité et finance, je commence à paniquer un petit peu. Parce que je ne me souviens jamais des chiffres, et jamais des numéros et tout. Mais prenons juste une grande vue de ce qui s'est passé dans les années, dans les décennies avant aujourd'hui. Et c'est drôle parce que j'entends Marc et il parle comme un démocrate ce soir. Parce que nous...
Non, c'est faux.
Non, c'est vrai, parce qu'on reconnaît tous le problème. Mais moi, je cherche à trouver qui est responsable pour cette chute de classe moyenne. Et moi, je pense que ça commence à Ronald Reagan. Donc, je parle vraiment dans le... Il ne faut pas imaginer que c'est Hillary Clinton ou Barack Obama qui sont fautifs dans cette histoire. C'est quelque chose qui arrive depuis les années 70, les années 80, où la classe moyenne diminue, où les gens deviennent de plus en plus pauvres aux États-Unis. Et ce n'est pas ici ce soir que c'est Vincent, peut-être, qui peut donner une conférence de quelques semaines sur les causes. Donc, ce n'est pas ici qu'on va blâmer un de nos candidats ou l'autre. Il faut simplement voir où on en est aujourd'hui, et c'est vrai, on est avec un pays où il y a Hillary Clinton comme candidat. Ce qu'elle cherche à faire, c'est diminuer comme Bernie Sanders. Et croyez-moi, Bernie Sanders est beaucoup plus proche à Hillary Clinton qu'il est à Donald Trump. Il ne faut pas imaginer pour une seconde qu'il y a une alliance simplement parce que les deux sont contre le status quo. On the contrary, Bernie Sanders marche main dans la main avec Hillary Clinton parce qu'elle est venue beaucoup plus sur son côté, où elle peut-être voulait toujours être. Grâce à Bernie Sanders, maintenant, elle peut être la personne qu'elle veut être. Nous avons Elizabeth Warren dans le Sénat. Nous avons une nouvelle progressivité dans le Parti démocrate qui est en train de prendre pouvoir, j'espère, et qui pourront faire quelque chose. Pour le faire, il faut qu'elle gagne le Sénat et il faut qu'elle gagne le Congrès aussi. Parce que Barack Obama a commencé en faisant énormément de bien, parce que vous savez qu'en 2008, il était héritier d'une situation fiscale menée par deux termes de républicains. Je suis désolée, on ne peut pas blâmer les démocrates pour ça. Et peut-être un petit peu de Bill Clinton aussi, des années 90, où il y avait des bubbles et les boules de succès. Et l'économie n'était pas exactement aussi stable qu'on croyait, qu'on imaginait. Mais enfin, si on veut juste regarder dans les derniers 8 ans, et ce que Hillary Clinton a aujourd'hui, Obama a été héritier d'une situation de catastrophe. Je ne sais pas, on oublie peut-être un petit peu où était le monde au moment où il a littéralement sauvé le pays et sauvé le monde. Il a dû sûrement pas faire tout exactement comme il fallait, mais il a évité une crise qui aurait pu être catastrophique pour le monde entier. Il a tout de suite sauver l'industrie de l'automobile, et on peut imaginer que c'est pas un démocrate qui arrivait ça, mais un républicain. Mais en fait, il voyait ce qui était bien pour le pays. Il a tout de suite investi énormément d'argent, sans doute pas assez, parce qu'il n'avait pas l'accord de Congrès dans le deuxième terme pour continuer. Vous savez, quand il était élu, il a eu 2 ans de majorité. Le Sénat et le Congrès, and the House of Representatives. Et pendant ces 2 ans, c'était les seuls moments où il a pu passer des lois. Il était obligé de faire toutes sortes de manœuvres pour arriver à faire quelque chose pendant 8 ans. Non, 6 ans. 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire pour les chiffres. Pendant 6 ans de son mandat, il était obligé de trouver les moyens très sneaky, très
détourné
pour pouvoir arriver à quelque chose, et finalement il n'est pas vraiment arrivé complètement, ni pour la santé, ni pour d'autres lois contre les lois pour le minimum wage, c'est-à-dire pour le salaire minimum, toutes les choses qu'il aurait bien aimé pousser dans la société, il n'a pas pu le faire. Mais Hillary Clinton, on compte sur elle, parce qu'elle va continuer dans le même chemin de Barack Obama, c'est-à-dire aider les pauvres, lever le salaire minimum, essayer de rendre l'éducation beaucoup, beaucoup moins chère pour les familles de middle class, même sinon gratuite, parce que c'est ce que Bernie Sanders avait promis dans le primaire. Et toutes sortes d'autres lois, projets de lois que je vois devant moi, qui pourraient justement éliminer cette inégalité fulgurante et flagrante que nous avons dans la société américaine. Et ça peut-être, donc pardonnez-moi parce que vraiment je ne peux pas vous citer les noms, les chiffres. Obama a quand même créé beaucoup d'emplois depuis qu'il est président. C'est vrai que ce n'est toujours pas très bien, il y a toujours beaucoup de mécontentes aux États-Unis. Mais eux, s'ils avaient l'aide, s'ils avaient l'éducation pour leurs enfants, s'ils avaient les prêts pour les mortgages, pour acheter des maisons, si tout ça, si Obama aurait pu passer ces lois, les gens seraient moins mécontents aujourd'hui et ils n'auraient pas recours à chercher une solution radicale pour améliorer leur vie. Et c'est ce qu'on espère que... Parce que c'est vrai que Donald Trump promet beaucoup et Dieu sait, ce serait formidable s'il pouvait faire ces choses-là. Mais il ne peut pas. Il n'a pas d'expérience dans le gouvernement. C'est vrai qu'il est peut-être un successful businessman. Et encore, on n'est pas sûr, mais le gouvernement, moi j'aurais trop peur de laisser le gouvernement et tous ces projets de loi qui doivent être passés tout de suite aux États-Unis pour aider les pauvres et aider la classe moyenne et taxer les riches. Il faut que ça se fasse, sinon l'Amérique est perdue.
Alors, je vais vous demander un tout petit peu de concentration et de discipline.
À moi ?
À vous deux. Parce que je ne suis pas encore convaincu, je ne sais, à moins que la renégociation des traités internationaux de libre-échange soit une remède miracle pour rapatrier des emplois industriels aux États-Unis, et que d'un seul coup, la Pennsylvanie, l'Ohio et l'Indiana recréent quelques dizaines de milliers d'emplois dans l'industrie sidérurgique, dans les mines ou dans l'industrie automobile. Mais je n'ai pas entendu de réponse à cette question, pas plus que je n'ai entendu de réponse sur...
C'est vrai, j'étais en sujet.
Comment Hillary Clinton va amplifier ou modifier le cours de la politique économique des États-Unis pour satisfaire cette forme de désastre et de désindustrialisation qu'on voit dans des États très divers, mais on pense évidemment tous à ce Midwest industriel, mais il y a aussi des États comme le Maine qui ont perdu la quasi-totalité de leur industrie papetière. Il y a d'autres États qui souffrent. Et simplement, soyez aussi bref et précis que possible, mais en une minute, dites-nous chacun et chacun comment, how. C'est ça qui nous intéresse. Le bilan, le diagnostic, on l'a tous posé dans des termes qui sont des termes parfois cauchemardesques, dystopian d'un côté, parfois d'un optimisme qui nous ferait presque penser à Alain Juppé de l'autre. Mais en tous les cas, on attend là encore, et je crois qu'il en va de la crédibilité du politique face à l'économique. On attend deux, trois idées très très précises sur la création d'emplois. Marc.
Oh. J'ai raté mon coup.
D'accord. Mais c'est un peu un piège quand j'ai juste une minute, mais il faut que je descende dans le fond. Alors, premièrement, ce n'est pas que les traités, bien sûr. On tout sait ça, un traité ne peut pas changer toutes les choses, mais ça va aider. Une autre chose, c'est pour changer le régime de taxes, le régime des impôts sur les entreprises. On a vécu un grand changement pendant les années 80, comme les grandes entreprises industrielles, les usines du Nord, sont délocalisées dans le Sud. Alors, ça veut dire qu'ils ont fermé les usines en Michigan, ils ont relocalisé au Tennessee, en Alabama, par exemple. Alors, ils ont fait ça comment? Parce que les États dans le Sud, républicains, ils ont créé un régime de taxes pour attirer les entreprises. Les États du Nord, qui étaient plutôt les États démocrates, ont continué avec le système des impôts pour vraiment étrangler les entreprises. Les entreprises américaines sont parties pour la Chine, pour le Mexique, parce qu'on a créé un système, un régime des réglementations qui n'était pas très rentable. Alors, il y a une logique de rentabilité aussi pour les entreprises. Si on change ça, mais c'est un piège parce que je n'ai pas le droit de parler beaucoup sur certaines choses. Alors, je connais M. Trump, on parle très souvent sur les conference calls. Alors, j'ai certaines choses que je peux dire et les autres choses, je ne peux pas. Alors, même si vous me voyez un peu comme un peu pas trop profonde, c'est une stratégie derrière tout ça. Alors, mais simplement, qu'il y a, ouais, ce n'est pas que une cause raccourcie, c'est vrai en plus.
Trust me, believe me.
Non, mais franchement, j'ai déjà donné deux exemples de comment ça peut marcher. Alors, il y a un plan, il était en train de créer tout ça, mais franchement, ça, c'est des modèles qui ont marché dans les États. Parce qu'aux États-Unis, on n'est pas un seul pays, on est les laboratoires des États. Ça veut dire que chaque État peut choisir le plan plus ou moins économique, le plan économique plus ou moins indépendant de Washington, sauf on continue avec le plan des démocrates qui va centraliser tout le pouvoir à Paris. Oh, pardon, Washington. Alors, simplement pour dire que si on peut avoir les laboratoires dans les États, on peut voir quel modèle marche et quel modèle ne marche pas. On ne peut pas centraliser tout à Washington pour les élites décider qui était bon pour tout le peuple. Les États-Unis, c'est un pays très, très divers économiquement, dans tous les sens. Alors, on a vu quand dans les États qui est géré par les républicains, les économies marchent bien. On a beaucoup d'idées qui marchent dans les États, comme le Texas, par exemple, madame. Vous savez bien qu'on a discuté ça à plusieurs reprises.
Alors, et Alabama, qui est
qui marche bien parce que tous les Mercedes 4x4 que vous avez en France sont fabriqués en Alabama. Alors, bien Roll Tide, ça, c'est l'équipe de l'Université d'Alabama. Mais franchement, on ne peut pas discriminer contre les petits États, les États qui sont plutôt ruraux. On doit protéger l'agriculture aussi. On doit protéger les entreprises, pas dans un sens protectionniste, mais on doit être on doit comprendre toutes les industries, tous les travailleurs, tous les ouvriers, pour vraiment comprendre qu'on ne peut pas juste jeter certaines industries dans l'océan qu'on a fait avant.
Marc, une remarque.
Oui, bien sûr.
C'est une recette qu'on connaît, puisque les États ont la possibilité, par toute une série de dispositions, de faire baisser le coût du travail. Et ce que vous nous dites, d'une manière très simple, c'est qu'effectivement, les États du Sud, qui n'étaient pas encore industrialisés, ont, dans les années 60 et 70 en particulier, réussi à attirer un certain nombre d'emplois industriels vers le Sud, en faisant très fortement baisser le coût du travail. On connaît la recette. Donc, certains économistes ont appelé ça « a race to the bottom », notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs et le salaire minimum qui était versé. Mais là, on est sur de l'interne. Est-ce que ce système, et agir sur le coût du travail, c'est effectivement agir en matière de compétitivité, mais est-ce que ce système qui a marché en interne, mais aussi au détriment d'une forme de désindustrialisation dans le Nord, il peut marcher dans un système qui est lui-même globalisé? Est-ce que les États-Unis peuvent se sortir d'un ordre économique globalisé?
J'ai fait un débat avec vous, Vincent.
Je poserai la même question à Constance sur d'autres aspects du programme économique de Hillary Clinton.
D'accord. Mais en fait, la industrialisation du Sud a été coupée par les délocalisations en Chine. Alors, le développement n'était pas encore arrivé et maintenant, on ne sait pas si ça peut continuer. Alors, cette race to the bottom, ça c'est vraiment une philosophie sur certains économistes. Ça ne marche pas toujours parce que dans certains États, dans le Sud, comme la Géorgie, le Texas par exemple, ça c'est une qualité de vie qui était très haute. C'est beaucoup plus haut que dans les banlieues de New Jersey ou New York par exemple. Ça c'est pourquoi les gens fuient de New York, New Jersey, Pennsylvanie, même ils commencent à fuir de la Californie. Parce qu'en fait, la qualité de vie n'était pas très bien. Les salaires étaient très augmentés. Alors, les gens ont beaucoup de l'argent, mais les prix sont explosés, flambés aussi. Alors, finalement, il n'y a pas une qualité de vie. Alors, ça, c'est un problème. C'est vraiment une problématique qu'on a comme en France. Alors, on cherche les solutions, mais on ne voit pas que centraliser le pouvoir à Washington peut aider.
Alors, à Constance, on a une situation économique qui, malgré une augmentation très forte de l'emploi et une résorption du chômage, reste fragile. Quels sont les aspects du programme de Hillary Clinton qui permettent justement à ces électeurs qui sont tentés par des solutions plus radicales de rester ou de revenir dans le bercail démocrate? Hein, vous le savez, les ouvriers, les cols bleus, ils ont voté massivement pour le Parti démocrate jusqu'en 1968. Le premier coup d'arrêt, ça a été l'élection de 1968. Et le deuxième grand coup d'arrêt, c'était l'élection de 1980. Et aujourd'hui, que propose Hillary Clinton justement à ces cols bleus pour revenir à l'intérieur du Parti démocrate et les convaincre que c'est le parti qui est le plus susceptible, peut-être à la fois de consolider l'emploi industriel aux États-Unis et d'inventer de nouvelles formes d'emploi?
Il faut beaucoup d'astuces et il y a beaucoup de contradictions très très difficiles à surmonter dans l'économie américaine. C'est-à-dire, nous voulons changer les lois de l'environnement et signer des accords et les traités avec le reste du monde. En même temps, nous avons une industrie qui était complètement basée sur le fuel, sur le coal, le charbon. Nous avons des populations entières qui souffrent de ce problème, qu'il y aura des changements de métier. Il y a des changements de métier qui ont disparu. Et puis, c'est vraiment dommage, mais il y a des conflits d'intérêts dans le monde et l'Amérique est obligée d'être un leader et prendre des décisions qui sont très difficiles. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver le plus rapidement possible un réchange, c'est-à-dire si, pour que les gens souffrent beaucoup, souffrent moins. Je m'excuse, je m'exprime très mal en anglais. Et puis, Hillary Clinton, elle a beaucoup de projets, elle a beaucoup de plans. Il faut que le gouvernement, ou peut-être les États, mais le federal government, investe sérieusement dans ces États qui sont dans des situations de crise, de horribles crises, des alarmes, comme était l'industrie de l'automobile au moment où Obama a investi des millions de dollars pour sauver quelque chose qui est très important pour les États-Unis. Et ça n'a pas été fait. C'est vrai, ces communautés étaient complètement abandonnées. Et les démocrates ne veulent pas abandonner. Je vous donne juste un exemple, un seul exemple, un projet qui s'appelle le 10-20-30. C'est-à-dire, c'est un investissement fédéral de 10% dans les communautés où 20% de la population vit en dessous de la ligne de pauvreté depuis 30 ans. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Et quand il parle de Detroit, etc., c'est exactement ça. Mais il faut être prêt, le federal government doit être prêt à investir dans ces communautés qui sont en crise. Parce qu'à côté de ça, vous avez le Massachusetts, qui est un État qui boom, parce qu'il est haute technologie, est tellement, tellement avancé. C'est comme Silicon Valley, c'est la même chose, la Californie. Tous les États qui se sont lancés dans les nouvelles technologies, ils ont énormément de succès. Donc, il faut aussi investir dans les nouvelles économies, de nouvelles l'écologie et technologie. Et l'écologie, si ça va malheureusement tuer beaucoup de jobs qui existaient avant, il faut qu'ils en créent le plus rapidement possible. Et ils sont capables de créer. Mais il faut qu'on lance devant avec un projet d'environnement qui est très, très, très puissant, dynamique. Et ça, on peut dire que les républicains sont beaucoup moins fortes sur cette position parce que ce n'est pas toujours très bien pour le business, pour les factories, pour les usines. Donc, tout ça, c'est très, très difficile à gérer. Je suis absolument d'accord. Et vous imaginez, Mme Clinton, vous pouvez trouver sur son website des pages et des pages et des pages de possibilités, de problèmes qui existent dans tous les États sur les États-Unis et des solutions, comme juste comme la petite solution que je viens de vous donner ici.